Bonsoir, Michel Murator, nous nous retrouvons pour un alter regard. Alors ce soir, je vous propose de parler de travail. À l'occasion de la réforme des retraites, on a parlé du travail, mais de façon très négative. Les Français ne veulent pas travailler plus, ne travaillent pas assez, etc. Mais ce n'est peut-être pas qu'ils ne veulent pas travailler plus, mais ils veulent travailler différemment. C'est le monde du travail, les conditions de travail dont ils ne veulent plus. Anthony Husseneau, que j'avais reçu en 2023 pour votre livre précédent, Pourquoi travailler, place et rôle du travail dans un monde en mutation. Mais dans ce nouveau livre, vous abordez le monde du travail, je dirais, de façon plus globale. C'est plus seulement le travail, l'utilité sociale du travail, mais le collectif de travail, l'organisation du travail et son impact donc sur les individus, mais aussi sur le vivant. Et les préoccupations écologiques sont bien présentes. Il s'agit d'un livre collectif. On ne va pas présenter tous les auteurs, ils sont 26 avec vous, c'est ça, j'ai bien compté. Mais on voit bien, en lisant, le fil conducteur de ces textes, c'est-à-dire tout ce qui caractérise le monde du travail. Et l'organisation de ce livre m'a paru très intéressante parce que sur chaque texte, on trouve la situation actuelle, des propositions et une bibliographie. Alors, l'ordre à la lecture, il me semble que l'ordre n'est pas important. On peut lire ce livre dans n'importe quel ordre en prenant un texte ou un autre. D'ailleurs, moi, j'ai commencé par la fin avec le texte d'Anthony Husseneau qui me semblait introduire l'ensemble. Et donc, mes invités, Anthony Husseneau, vous pouvez vous présenter.
Oui, bonjour, Anthony Husseneau. Donc, je suis professeur des universités à l'Université Côte d'Azur et je suis spécialiste de la question du travail, notamment des évolutions des pratiques de travail et de collaboration.
Alors, vous avez coordonné ce livre avec Sophia Gallière. Merci de vous présenter.
Oui, bonjour, Sophia Gallière, maîtresse de conférence en sciences de gestion à l'Université Côte d'Azur, également spécialiste des transformations du travail, notamment en lien avec les nouvelles technologies.
Voilà, oui, il y a aussi la place des nouvelles technologies, bien sûr. Alors, je disais que j'ai commencé par la fin. Donc, avant de parler d'un autre monde du travail, il me paraît important de revenir sur ce que c'est le travail. Donc, le mot travail provient du latin triparium, c'est la torture. Bon, actuellement, on aborde le travail sous l'aspect économique, produire, pour pouvoir consommer, mais il y a une autre dimension du travail, une dimension citoyenne qui est abordée dans le livre.
Oui, alors dans ce livre, je propose de penser le travail comme une activité citoyenne, c'est-à-dire une activité qui participe très concrètement à la vie de la cité, à la construction de la société. Et en pensant le travail comme une activité citoyenne, eh bien, ça permet un petit peu de décentrer le regard, décentrer le travail de sa dimension économique pour explorer eh bien, les conséquences de notre travail sur la société. En quoi, moi, dans mes activités professionnelles très concrètes au quotidien, je participe à définir à faire évoluer, à fabriquer une société qui peut me convenir ou d'ailleurs parfois qui ne me convient pas.
Et donc les travailleurs ne sont pas que des consommateurs, ce sont aussi des citoyens. Et c'est cette approche-là que vous défendez.
Oui, tout à fait. Et à ce titre, pour revenir sur l'étymologie, c'est vrai qu'on a tendance, depuis le XXe siècle, à penser effectivement que le travail vient du tripalium, l'instrument de torture. Mais en fait, c'est un débat auprès des linguistes sur l'origine de ce terme. Et en fait, une autre manière de penser le travail, c'est aussi en pensant, en divisant en fait le mot en deux termes, trans, donc à travers, et val, qui viendrait de l'ancien français, sur la matière. Et en fait, c'est vrai que travail, ça peut être aussi compris sur le fait de transformer la matière, donc de transformer le monde, et pourquoi pas d'avoir un impact, effectivement, sur la société.
Alors, on parle beaucoup de valeur travail. Mais qu'est-ce que c'est, cette valeur? C'est financier, c'est moral, c'est du sens?
Alors, on parle beaucoup de la valeur travail. Et effectivement, c'est une question qui est importante parce que je crois qu'il y a une grande confusion. Le travail a une valeur économique, effectivement, c'est le salaire, c'est la valeur ajoutée, c'est tout ça. Mais le travail, en aucun cas, ne serait une valeur morale. Tout simplement parce que une valeur morale ne se négocie pas. Une valeur morale est gratuite. On n'est pas gentil pour être payé. Vous voyez ?
C'est
alors que le travail est rémunéré. Mmh. Donc le travail n'est pas une valeur morale. En revanche, dans le travail, il y a et il devrait y avoir certaines valeurs morales. Tout à fait. Donc que dans l'activité, on mobilise nos valeurs morales, c'est une chose. Mais dire que le travail est une valeur morale, c'est un abus de langage. Mais c'est un abus de langage qui est bien commode pour certains, notamment politiques, parce que ça permet d'éviter d'ouvrir le débat. Parce qu'on ne discute pas une valeur morale. On ne négocie pas une valeur morale. Donc, en faisant du travail une valeur morale, ça ferme le débat, ça ferme la discussion sur la possibilité d'interroger le travail et notamment sa place et ses conséquences très concrètes dans notre vie.
Sophia, compléter.
Oui, effectivement. Hein. Alors, c'est vrai que nous, en tant que spécialistes du management, hein, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut finalement... combiner ou en tout cas penser deux finalités du travail, donc une externalité qui est effectivement économique hein, et une externalité qui serait plus de l'ordre du développement humain quelque part. Donc c'est vraiment ça qui nous a animés dans cet ouvrage.
Alors le travail, disons le travailleur, sont quand même au centre d'une crise sociale et écologique. Donc comment on concilie aussi tout ça?
Eh bien, le travail est traversé par des crises, mais ce sont les mêmes crises hein, que celles qui traversent la société, tout simplement. Le travail est traversé par les crises écologiques, sociales, économiques aussi. Hein. Il y a des débats importants, des tensions importantes autour de la répartition de la valeur créée dans le travail. Et il y a aussi des crises qui sont propres au travail. Hein. Donc il y a des crises qui traversent la société et le travail, et des crises qui sont plus intrinsèques au travail, le manque de sens au travail, le manque de reconnaissance au travail, des formes de souffrance au travail qui sont qu'on va pas forcément retrouver dans d'autres sphères de la société et qui sont davantage le fruit de modes d'organisation du travail.
Tout à fait, c'est ce qu'on va développer après. Mais Sophia, qui est plus spécialiste donc des nouvelles technologies, disons, ces nouvelles technologies ont un poids important dans ces crises du travail, non ?
Oui, effectivement, la technologie, c'est l'un, en tout cas, des grands enjeux du travail aujourd'hui, notamment parce que depuis les années 50, même 70, on pensait que la technologie allait être vecteur de décentralisation, d'organisation plutôt en réseau, propice à l'autonomie. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui avec le développement de l'intelligence artificielle, c'est finalement des formes de néo-taylorisme, ce qu'on a pu appeler notamment le management algorithmique, où la technologie, elle est plutôt là, en fait, pour, en tant que technologie de contrôle, de surveillance en temps réel, et donc finalement qui pose la question là aussi hein, du sens du travail si on retombe en tout cas sur des formes de travail qui sont largement contrôlées par les nouvelles technologies.
Oui, alors vous incitez les individus quand même à se poser la question à quel type de société je souhaite participer, et moi ça m'a fait penser à ces étudiants de grandes écoles qui ont, au moment de la remise des diplômes, dit qu'ils ne voulaient pas participer à cette société, quoi. En gros, ils voulaient être... Et donc ça, c'est aussi le travail souffrance qui intervient.
Alors, il faut distinguer celles et ceux, je pense, qui sont diplômés, celles et ceux qui ont un fort capital économique et culturel. Et ces personnes-là peuvent effectivement... davantage prendre en main leur vie professionnelle, faire des choix qui correspondent à leurs valeurs et qui seraient les choix les meilleurs, disons, pour la société. En revanche, il y a également de nombreux actifs, de nombreuses personnes qui n'ont pas ces ressources et qui, elles, subissent davantage le monde du travail, subissent davantage les affres du marché de l'emploi. Mais dans un cas comme dans l'autre, nous participons tous à la vie de la société. C'est ça, que l'on veuille ou non. Nous sommes des acteurs de la société à travers notre vie professionnelle.
Oui, mais on ne va pas...
Oui, alors c'est vrai que juste pour sur la crise climatique et le sens du travail, c'est vrai que je pense que chez les jeunes, il y a peut-être une perte de sens qui est liée au fait qu'il y a un peu une fin en fait des grandes idéologies depuis les années 70-80, et notamment l'idée qu'on passerait à une société qui serait post-moderne, où on serait moins sûr de l'idée de progrès quelque part. Et ça, je pense que pour les jeunes qui veulent travailler, en fait, avant peut-être travailler pour Airbus, travailler pour Bayer, c'est participer au progrès humain, en fait, participer à la grande histoire de l'aviation, à lutter contre la famine. Et aujourd'hui, quand on travaille pour ces entreprises-là, on n'est plus certain qu'on participe à faire du beau monde, peut-être qu'on participe finalement plutôt à la crise climatique, les émissions de CO2 liées à l'aviation, ou aussi au pesticides qui nuisent à notre santé.
Donc on revalorise tout ce qu'on appelle le care, en fait. C'est ce qui doit être revalorisé.
Le care et le travail vivant, c'est-à-dire le travail concret, ce qu'on fait concrètement, c'est ça qu'il faut valoriser. C'est-à-dire qu'il faut revenir à ce que les gens font très concrètement au quotidien et à partir de là, essayer de tisser les liens entre ce que l'on fait le plus concrètement possible au quotidien, entre ce que l'on fait et la société, et les enjeux économiques, les enjeux politiques, parfois même les enjeux géopolitiques. Montrer que derrière nos actes, nos tâches les plus concrètes, les plus banales, il y a des enjeux, il y a des conséquences. Nous sommes tous un petit rouage de ce monde.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit, de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal. Qui va dérivant, je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'homme, travailler encore, acier rouge et mains d'homme. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore.
Michel Muratin, nous retrouvons pour un alter regard avec Anthony Husseneau et Sophia Gallière. Alors, après cette pause musicale, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
Oui, alors d'une part, bon, c'est une très belle chanson hein, qui relate bien les évolutions du monde du travail ces dernières années. Donc dans cette chanson, effectivement, Bernard Lavilliers fait état des grandes forces qui ont transformé le travail, donc notamment la mondialisation, la financiarisation, qui ont mené à des délocalisations. Et aussi dans cette chanson, Lavilliers essaie aussi de mettre en avant, en tout cas, le sens du travail des ouvriers et le fait que, bah, du coup, ces grandes mutations contemporaines mettent à mal ce sens du travail. Voilà.
Merci. Alors, je disais, c'était un livre collectif. Chaque texte abordé comprend un état des lieux, je dirais, des propositions. Donc, je vais essayer. Alors, il y a un mot à chaque fois. Donc, je vous propose de prendre des mots. J'ai fait des regroupements. Vous me direz s'ils sont pertinents ou pas. Alors, je voulais commencer quand même par aphorie, parce que c'est pas un mot qu'on entend tous les jours. Je pense que, comme moi, la majorité des auditeurs ne connaissent pas la définition. Donc, on va commencer par ça. Et je pense que ça nous renvoie... Alors, allez-y d'abord. Je reprendrai.
Oui, alors ce terme de adiaphorie, qui nous vient d'un sociologue, Zygmunt Bauman, assez connu pour ses travaux sur, effectivement, les évolutions des organisations, mais également sur la question de l'Holocauste, en fait. Et dans cette question de l'Holocauste, Zygmunt Bauman nous dit que, en reprenant un peu la thèse de aussi Hannah Arendt, qu'il y a une banalité du mal parce que les êtres humains, en fait, ne sont pas dotés de facultés morales a priori. Ils peuvent basculer dans le bien ou dans le mal selon les circonstances. Et donc, dans notre ouvrage, notre collègue Bertrand Valliorc, qui a écrit le chapitre, reprend ce terme d'adiaphorie pour nous dire que nos organisations actuelles sont essentiellement adiaphoriques. Donc, l'adiaphorie, c'est quoi ? C'est l'indifférence morale. Il essaie d'expliquer pourquoi est-ce que ces organisations sont donc indifférentes à la morale, et ce serait lié, selon lui, au fait qu'on ne puisse pas en fait regarder ou avoir un regard sur les conséquences concrètes de notre activité. Le fait que finalement on travaille essentiellement dans des bureaux, pour en tout cas ceux qui ont un travail lié à la société de la connaissance et qui représentent 50% de l'activité, et donc on ne voit pas le résultat concret de notre travail. Donc que ça agisse pour le bien ou pour le mal de la société, on ne se sent pas concerné. On ne se sent pas responsable.
Et ça nous renvoie à ce que nous disions sur les jeunes diplômés. Il y a un peu ça aussi. Ils ne supportent pas cette indifférence aux conséquences de leur travail.
C'est ça. C'est-à-dire que finalement, il y aurait des travailleurs qui, avant de rentrer dans ces organisations modernes, ont déjà en fait des espoirs en termes de transformation de la société. Et donc, ils ne supportent pas, une fois arrivés dans l'entreprise, dans les grandes organisations, cette forme de dissonance cognitive qui se crée entre leur activité qui est décorrélée finalement de leur ambition intellectuelle et morale. Donc dans ce chapitre-là, finalement, Bertrand Valliorc essaie de nous inviter ou d'inviter les organisations à repenser comment est-ce qu'on peut voir notre action sur le travail. Ça peut se passer en fait au niveau des objectifs de performance, d'évaluation des performances. On peut penser à l'exemple de Schneider Electric. Grand constructeur de systèmes qui permettent justement de faire baisser les émissions de CO2. Dans d'autres organisations que Schneider, eh bien les objectifs de performance d'un ingénieur, ce serait respecter les délais, avoir un produit qui correspond aux attentes des clients, mais parfois décorer corrélés de l'impact climatique, là où pour Schneider Electric, ils ont intégré dans les évaluations des performances le fait de participer, de tel pourcentage en tout cas, aux émissions de CO2 chez le client. Donc là, directement, on voit le produit de notre activité et on est récompensé pour le fait de contribuer en tout cas à la réduction d'émissions de CO2.
Alors, un autre mot, l'autonomie. Alors, ce fut, il y a un moment où c'était à la mode, hein. On parlait d'ateliers autonomes, mais on se rend compte qu'en fait, ça crée plus de souffrance. C'est pas vraiment de l'émancipation, ça crée beaucoup de souffrance. Bon, le plus bel exemple qui est cité, c'est le télétravail, où on dit ben, je suis libre de faire ce que je veux, et on se rend compte qu'en fait, il y a une très grande dépendance au lieu de donner de l'autonomie aux citoyens, aux travailleurs.
Alors oui, alors on a un chapitre sur l'autonomie hein, qui a été écrit par Saveria Secchi, et dans lequel en fait elle nous dit que l'autonomie est souvent perçue comme une forme d'indépendance. Et c'est là où on se trompe, parce que ça entraîne une tension entre l'indépendance et la dépendance, comme s'il n'y avait pas d'autre alternative que soit on est totalement indépendant, soit on est dépendant. Et ce qu'elle nous dit, c'est que tout simplement, l'autonomie, c'est avant tout de l'interdépendance. Là aussi, c'est du lien, c'est ce qui nous réunit, c'est le fait de pouvoir compter sur l'autre. Et si on pense l'autonomie comme étant une forme d'interdépendance, alors ça nous amène à reconsidérer notre façon de manager. En soi, on ne manage pas soit de l'indépendance ou de la dépendance, mais ce que l'on manage, ce sont des liens, des relations. Et dans ce cas-là, on a moins peur de laisser les gens télétravailler, par exemple, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas chez eux totalement indépendants et totalement déconnectés de l'entreprise, mais au contraire, ils sont peut-être chez eux en train de travailler, mais en même temps, ils sont très interdépendants avec les autres, en interdépendance avec les autres employés. Et c'est un chapitre qui est important, parce que c'est une des revendications principales. Hein, quand on regarde un petit peu les études, on voit que l'autonomie est une des revendications principales et qui crée encore beaucoup de problèmes en entreprise, parce que souvent, on s'imagine, en tout cas les managers s'imaginent que l'autonomie, c'est forcément une forme d'indépendance, donc une forme de coupure avec le reste de l'entreprise, alors que pas du tout, c'est de l'interdépendance.
D'accord. Et alors l'entrepreneuriat là-dedans, c'est de l'autonomie, de l'émancipation, la réalisation personnelle
Ah oui, alors sur l'entrepreneuriat, on peut effectivement différencier différentes formes d'entrepreneuriat, mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui l'appétence de nos étudiants, en fait, vers cette forme de travail émancipé du salariat. Donc le salariat qui est vu, du fait de tout ce qu'on vient de dire, sur les nombreuses crises qui traversent le travail, donc un salariat qui est vu comme étant nocif par rapport à l'autonomie, fort d'instruments de contrôle. Donc oui, on peut considérer l'entrepreneuriat comme une forme d'émancipation. Mais bon, il faut aussi penser que dans l'organisation du travail, il faut aussi chercher des formes d'émancipation. Parce que finalement, l'entrepreneuriat, ça signifie là aussi être seul face à ses tâches. Et quand on regarde la santé mentale des entrepreneurs, eux aussi ne sont pas en reste et ne sont pas finalement mieux lotis que les salariés finalement.
Et ces jeunes-là qui refusent de rentrer dans le moule, ils se tournent vers l'entrepreneuriat plutôt ?
C'est une tentation, en tout cas. C'est vrai que nous, qui sommes à l'université, on voit le succès notamment des programmes d'étudiants entrepreneurs qui sont de plus en plus mobilisés par les étudiants. Et là aussi, c'est aussi une question de sens du travail. Quelle utilité est-ce qu'ils voient à leur travail ? Et on voit que beaucoup de ces projets-là sont souvent en fait des projets à vocation sociale, avec un boom aussi de l'économie sociale et solidaire. Donc une volonté d'être à son compte, autonome, indépendant, peut-être que là, c'est peut-être la limite, c'est-à-dire peut-être qu'il y a aussi une négation de la force du collectif derrière, mais en tout cas, avec une vocation d'utilité sociale qu'ils, selon eux, ne trouvent peut-être pas autant dans les grandes organisations modernes.
Alors, je voudrais revenir justement sur la place du collectif. Vous l'avez un peu abordé tous les deux. Je pense qu'il faut qu'on développe quand même un peu plus quand on parle du monde du travail, de la place du collectif. Parce qu'on voit bien les difficultés des personnes qui sont coupées et qui, effectivement, en termes de santé mentale, ont de gros soucis. Alors, il y a à la fois le collectif par rapport à la réalisation d'une tâche, je dirais, où c'est valorisant de travailler avec d'autres, non ? Oui. Et puis, il y a à la fois, si je perds ce collectif, ma santé mentale s'en ressent.
Oui, tout à fait. Ben, ça revient là aussi à la question d'autonomie versus indépendance. Donc c'est vrai que quand on regarde les études sur le télétravail, on voit que cette forme voilà, d'autonomie indépendante crée une intensification du travail et un sentiment de solitude face à ses propres tâches. Parce que c'est vrai qu'en télétravail, on ose peut-être moins contacter les collègues. Hein, on a plus rendez-vous à la machine à café où on peut parler de manière informelle de ces difficultés-là. Et donc c'est vrai qu'on essaie de développer une pensée autour de l'éthique du care, comme vous avez pu aussi le dire un petit peu en avant. Donc, c'est-à-dire reconnaître en tout cas la force de ces interdépendances invisibles, le fait de, là aussi, hein, dans l'évaluation des travailleurs, de considérer le temps qui est consacré à aider les autres, à transmettre des connaissances tacites, à intégrer aussi les nouveaux arrivants. Donc là, effectivement, on essaie de dire, voilà, il faut penser l'éthique du care, la vulnérabilité de chacun dans le travail, et ne pas penser qu'en situation de télétravail ou même voilà, sur, en présentiel, on peut s'émanciper du collectif. La force, finalement, le pouvoir d'agir que l'on peut avoir au travail, ça vient en tout cas du collectif.
Alors, je voudrais peut-être juste rajouter une chose sur le télétravail. On a maintenant des batteries d'études hein, depuis la Covid qui montrent que globalement, les salariés sont plutôt satisfaits du télétravail à plus de 70%. En général, même, ils en demandent plus. Mais qu'en revanche, il y a une catégorie de personnes qui souffrent en partie du télétravail. Ce sont notamment les assistants et les assistantes qui sont invisibilisés avec le télétravail. C'est-à-dire que ça devient juste des boîtes mail à qui on envoie des requêtes. Vous voyez, donc on n'a plus une personne avec qui on collabore, on n'a plus une personne avec qui on échange, on n'a plus une personne avec qui on va pouvoir prendre un café, mais on a uniquement une boîte mail avec un nom, et derrière, il y a une personne qu'on ne voit jamais, qu'on n'a jamais vue. Et cette personne-là, eh bien, elle doit répondre à toutes sortes de requêtes. Et ces gens-là souffrent parce qu'ils sont totalement invisibilisés. Ils n'ont plus de reconnaissance, ils ont l'impression d'être une machine, hein, vous savez, comme les machines à café dans lesquelles on met une pièce et sur laquelle on appuie sur un bouton, quoi. Donc cette catégorie de personnes souffre. En revanche, pour l'ensemble des salariés, de façon très générale, le télétravail est apprécié.
Alors, maintenant, deux mots que je mets ensemble et qu'il va falloir expliquer, c'est créativité et innovation. Parce que, bon, on emploie l'un, on emploie l'autre. Il me semble important de préciser, et puis, comment, ensuite, puis c'est le thème du livre, comment l'organisation du travail permet de développer de la créativité ou de l'innovation, ou au contraire, comment l'organisation peut bloquer complètement toute innovation.
Oui, alors dans l'ouvrage, hein, effectivement, on essaie de dire que la créativité, c'est devenu une nouvelle injonction. En tout cas, l'innovation, le changement permanent, hein, c'est une réalité de notre travail moderne. Donc le risque, ce serait en tout cas de décréter la créativité, de dire « soyez créatifs ». Et on pense que c'est le pire moyen, en tout cas, de générer de la créativité. Donc sur la manière de générer la créativité, finalement, c'est toujours un petit peu lié au fait d'avoir des organisations qui acceptent l'incertitude, qui acceptent le risque, et donc aussi le droit à l'erreur. Donc c'est pas forcément avec des processus très standardisés d'intelligence collective qu'on va forcément arriver à des innovations, mais c'est plutôt en laissant des marges de manœuvre plutôt informelles, ce qu'on peut appeler le job crafting parfois, hein, c'est-à-dire le fait de pouvoir bricoler son propre travail sans avoir un regard qui vient du management, qui va permettre en tout cas d'arriver à des nouvelles manières de faire. Donc ça c'est un peu l'innovation ordinaire, c'est pas l'innovation en tant que, c'est pas l'innovation industrielle. En termes d'innovation industrielle, quelque part, oui, il faut aussi penser les interdépendances en termes de créativité. On n'innove pas seul, on innove dans un écosystème d'innovation. Vous savez qu'ici, région PACA, on a le très bon exemple de Sophia Antipolis, où finalement l'innovation, ça ne vient pas d'un individu seul, héroïque, mais ça vient plutôt de l'interdépendance entre l'individu, des laboratoires sur un territoire, d'autres entreprises, et c'est vraiment la force, là aussi, hein, de l'écosystème qui génère donc de l'innovation.
Alors peut-être pour s'arrêter encore un petit moment sur cette notion de créativité, je pense qu'elle est assez symptomatique des tensions et des paradoxes qui traversent le monde du travail. C'est-à-dire que Sophia l'a dit tout à l'heure, on est dans une économie de la connaissance, donc une économie dans laquelle la valeur émerge essentiellement de la créativité et de l'innovation. Mais il n'y a pas de créativité s'il n'y a pas de transgression. Il n'y a pas de créativité s'il n'y a pas d'imprévisibilité. Hein. C'est ce que nous dit Bérénice Kubler, l'autrice du chapitre sur la créativité. Donc il n'y a pas de créativité si on ne s'écarte pas des normes. Or, le monde du travail est un monde normé, est un monde dans lequel dans lequel tout doit être prévisible, tout doit pouvoir être anticipé. Vous voyez ? Et donc il y a une tension entre d'un côté des injonctions liées au management qui sont plutôt la prévisibilité, le respect des règles, des normes, tout ce qui est lié à la bureaucratie, hein. Et de l'autre côté la créativité qui est un des moteurs de notre économie contemporaine. Mais cette créativité, elle a besoin de liberté, elle a besoin de pouvoir transgresser. Elle est imprévisible. Elle ne se planifie pas, cette créativité. Et là, on a, avec la notion de créativité, vous voyez, une notion qui met bien en exergue une des tensions essentielles qu'on retrouve dans le marché, sur le marché du travail, dans le monde du travail, notamment dans un contexte précis qui est celui de notre économie de la connaissance.
Oui, alors, on dit toujours, les chercheurs en France, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Mais effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Et cette surveillance, parce qu'à côté de ce monde du travail soi-disant libre, tout ça, il y a au contraire, on verra tout à l'heure plus en détail, une surveillance. Et cette surveillance, elle n'est pas propice à la créativité et au libre, enfin, à innover.
Oui, effectivement, c'est toute la difficulté des organisations à être ce qu'on pourrait dire ambidextre. C'est-à-dire avoir à la fois des activités d'exploration, de créativité libre, et de l'autre côté, des activités d'exploitation, donc de standards, de processus à respecter pour fonctionner au quotidien. Donc sur l'exercice de l'exploration, c'est vrai que peut-être qu'en France, on est notamment un peu plus en retard par rapport à d'autres pays. On pourra en revenir un peu plus tard sur ce retard du management à la française. Mmh. Mais en tout cas, on peut imaginer des formes d'organisation qui peuvent être inspirés de la Silicon Valley, de la Californie, de réserver en fait un jour par semaine, comme chez Google, en fait, à des projets qui sont complètement libres et qui rejoignent en fait plutôt des aspirations individuelles. Et on voit que c'est souvent dans ces journées libres qu'on arrive à des innovations qui vont être ensuite aussi propices pour l'entreprise.
On est quand même dans une contradiction parce qu'on parle d'autonomie. Moi, je me souviens avoir travaillé sur les ateliers autonomes. En fait, tout était très prescrit. Très, très prescrit.
Oui, c'est toute la tension qu'il peut y avoir entre l'autonomie et le contrôle. Alors, dans le livre, il y a également un très beau chapitre qui est écrit par Aurélie Leclerc-Vandelanoite, dans lequel elle propose de voir le contrôle non pas comme une mainmise sur les individus, mais comme une forme de reconnaissance de leur maîtrise. Vous savez, c'est comme lorsque l'on dit qu'un pilote contrôle sa voiture, un pilote de course qui contrôle sa voiture. Là, le contrôle, ce n'est pas de la surveillance. Le contrôle, c'est de la maîtrise. C'est cette expérience que vous avez acquise. C'est cet apprentissage que vous avez réalisé qui vous permet de maîtriser ce que vous êtes en train de faire. Et donc, ce qu'elle propose, c'est de voir le contrôle de cette façon. Et je pense que c'est un joli pied de nez, si vous voulez, au management classique qui consiste à surveiller, à prendre de la hauteur, enfin de surveiller d'un point élevé ce que font les salariés pour en revanche leur redonner le contrôle, c'est-à-dire la maîtrise et reconnaître, c'est important, la reconnaissance, ça fait partie des principales revendications des employés, reconnaître leur maîtrise, leur capacité à contrôler eux-mêmes leur travail.
Alors, oui, allez-y.
Oui, alors c'est vrai que sur les questions des ateliers autonomes, où finalement c'est un management qui est déjà participatif, censé être plutôt plat, un leadership qui est distribué, le côté prescrit, il vient en fait de deux choses. D'une part, on a quand même un retour des leaderships parfois informels aussi, au sein de ces ateliers, de ces équipes semi-autonomes, qui peuvent aussi brider la créativité, parce que c'est pas uniquement, effectivement, le fait de distribuer le pouvoir qui va faire que tout le monde va pouvoir échanger ou contribuer de manière égale, en tout cas, aux décisions qui sont prises. Et la deuxième limite de ces ateliers autonomes ou des équipes semi-autonomes, c'est ce qu'on pourrait dire le management participatif de façade, où finalement on va laisser une latitude aux équipes semi-autonomes, mais peu pour justifier des décisions qui ont été prises en fait a priori. Donc il y a deux limites, des leaderships informels et puis de l'autre côté un management participatif qui est en fait uniquement de façade.
vieux film d'actualité. Ça fait bien longtemps que j'oublie tous mes rêves. Je perdrai ma vie à la gagner. Ça, je le sais. Que le temps, c'est de l'argent. Que je passe mon temps à le perdre. Réveille-moi si on peut rêver dans le meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. Réveille-moi si on peut rêver, rêver dans le meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. On fait le voyage en solitaire. Ça fait bien longtemps qu'on fait plus la paix. J'ai pas de crédit pour m'épargner. Ça, je le sais. Que je finis sur les dents. Un sourire aux lèvres. Réveille-moi si on peut rêver dans le meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. Réveille-moi si on peut rêver. Rêver dans le meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur.
Michel Murator, donc nous nous retrouvons pour un alter regard avec Anthony Husseneau et Sophia Gallière. Non, je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
Oui, vous avez entendu Un monde meilleur de Hervé. Alors on l'a choisi parce qu'il offre un contrepoint finalement à la tonalité de la chanson précédente, Les Mains d'Or. Les Mains d'Or qui avait un côté un peu désenchanté sur le travail, sur l'évolution du travail ces dernières décennies. Et Un monde meilleur, quelque part, illustre bien notre ambition dans cet ouvrage-là de penser en tout cas une alternative, comment réenchanter le travail.
Voilà. Alors, ce que je vous propose dans cette partie, c'est de revenir, de développer plus tout ce qui est le management, puisque c'est, on dit, un autre monde du travail est possible, et le management, la forme de management, tout ça, a un poids important.
Alors, le management joue un rôle important, effectivement, dans les relations de travail. Et il y a plusieurs études, plusieurs ouvrages qui sont publiés, qui ont été publiés récemment, qui montrent que le management est pointé du doigt. Le management est souvent problématique. On y dénonce un management qui serait trop vertical, qui serait basé avant tout sur la défiance, un management dans lequel il n'y a pas suffisamment de reconnaissance, un management dans lequel les salariés n'ont pas assez de place pour participer à la vie de l'entreprise. Donc effectivement, le management est remis en cause. Et c'est ça qu'on doit aujourd'hui examiner, nous, experts du travail, mais aussi les managers eux-mêmes. Et il y a un deuxième élément qui est intéressant, c'est que bon, d'abord, les salariés souffrent de ces formes de management, mais les managers eux-mêmes souffrent également de leur propre pratique de travail, parce qu'on constate, il y a plusieurs études là qui sont parues également aussi sur ce sujet, que le désengagement, on constate un désengagement de la part des managers, on constate une augmentation du taux d'absentéisme chez les managers, on constate aussi qu'une part très très importante, plus de 50% des cadres ne veulent plus devenir manager, donc le métier de manager ne fait plus rêver, et les pratiques de management elles-mêmes cause énormément de souffrance chez les salariés.
Alors, on parle de gouvernance. Alors, le gouvernance, moi, j'ai cherché, c'est le bon gouvernement, c'est les pratiques participatives et inclusives. C'est rarement le cas en entreprise.
Oui, surtout en France, hein, effectivement, Anthony expliquait le constat qu'on peut faire d'une crise du management, qui était souligné notamment par le rapport de l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales, en mars 2025. Et effectivement, ce rapport de l'IGAS pointe aussi du doigt que le management, les pratiques de management doivent être mises en lien avec la gouvernance, puisque ce retard français, en fait, est aussi lié au fait qu'on souffre de la comparaison avec l'Allemagne, avec les pays nordiques, et ce sont des pays qui ont un autre mode de gouvernance que nous. En France, on est plutôt sur une gouvernance actionnariale. Donc le but de la gouvernance, en tout cas, c'est de maximiser la valeur pour les propriétaires de l'entreprise. Exception faite tout de même de 1 à 2 représentants des salariés. Là où, en Allemagne, on a plutôt un modèle de co-gestion. Donc, c'est-à-dire que la moitié du conseil d'administration des entreprises est composée de représentants syndicaux. Donc c'est vrai que dans l'ouvrage, notre collègue Jean-Pierre Boissin invite plutôt en fait à repenser un modèle de gouvernance à la française, sans forcément copier nécessairement, en tout cas, le modèle de l'Allemagne, mais en tout cas de développer davantage l'actionnariat salarié, d'inclure dans les conseils d'administration, pour aller vers plus de gouvernance partenariale, peut-être un représentant d'ONG, de la société civile, pour en tout cas considérer dans la gouvernance de l'entreprise les intérêts des différentes parties prenantes, donc de l'État, de la société civile et des salariés.
Alors, dans le droit français, dans le contrat de travail, il y a ce lien de subordination. Donc, comment on concilie ce lien de subordination avec ce qu'on peut rêver d'une entreprise plus ouverte, plus participative ? Parce que ça pose la question du pouvoir de la hiérarchie. Là, il y a un texte de Sophia sur le pouvoir. Mais Anthony, allez-y d'abord, il avait envie.
Alors sur le lien de subordination, le lien de subordination est au cœur de la relation de travail. C'est vraiment même une spécificité dans le droit, ce lien de subordination. Il entraîne une certaine dépendance du salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique. Et cette dépendance, elle se manifeste surtout par le fait que dans la relation de travail entre un supérieur et un subordonné, le subordonné se voit ôté de sa capacité à s'autodéterminer. Donc ça, c'est un premier point. Le second point sur le lien de subordination et la gouvernance, hein, c'est que on pourra toujours effectivement créer des formes, repenser des formes de management dans lesquelles le salarié aura plus d'autonomie. Si le lien de subordination n'est pas remis en cause, ça restera purement esthétique. Il y a un troisième élément qui est important, c'est quand nous sommes dans une économie capitaliste. Et dans une économie capitaliste, le pouvoir revient toujours à ceux qui détiennent le capital. Et si on reste dans une gouvernance dans laquelle il y a une séparation claire entre les détenteurs du capital d'un côté et les détenteurs du travail de l'autre, eh bien il y aura toujours une asymétrie dans le pouvoir. C'est pas impossible de créer un mode de gouvernance qui prenne en considération les salariés, un mode de gouvernance dans lequel les salariés seraient des parties prenantes si les salariés ne sont pas n'ont pas une participation directe dans le capital. Alors, ça veut dire qu'il y a des dispositifs qui existent d'ores et déjà, mais qu'à mon avis, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut généraliser la participation des salariés dans le capital, parce qu'encore une fois, dans une économie capitaliste, on a beau retourner le problème dans tous les sens, dans une économie capitaliste, le pouvoir est toujours du côté des détenteurs du capital. Toujours.
Alors, Sophia, vous développez justement ce lien de subordination et le pouvoir hiérarchique dans un de vos textes.
Oui, tout à fait. Peut-être que je vais nuancer quelques propos qu'on a tenus, parce que finalement, c'est que le management est une pratique du pouvoir, puisque dans les entreprises, dans les organisations au sens large, il s'agit en tout cas de travailler pour le compte d'un objectif qui ne nous incombe pas. On n'a pas choisi la finalité de l'entreprise, on n'a pas choisi pourquoi Airbus existe. Donc le management est nécessairement une pratique du pouvoir, puisqu'il s'agit d'amener des travailleurs et les équipes à travailler pour l'intérêt de l'entreprise. Donc ensuite, oui, il faut pouvoir délibérer de la raison d'être de l'entreprise au sein de la gouvernance, mais il y a peut-être aussi l'idée de dire que ce pouvoir, repenser le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas uniquement un pouvoir vertical, descendant, mais ça peut être aussi, une fois que les travailleurs peut-être se reconnaissent dans cette raison d'être de l'entreprise, de savoir comment les accompagner à faire le mieux leur travail. Donc finalement, le pouvoir, on essaie de penser à un pouvoir qui serait plus capacitant que contrôlant, donc de repenser le management vers une ambition de subsidiarité. Donc qu'est-ce que c'est la subsidiarité? En fait, c'est de partir du principe que c'est ceux qui font qui savent comment faire leur travail et comment atteindre les objectifs qui, certes, ont été composés par le management. Donc pour les opérationnels, il s'agit pour eux, en tout cas, de prendre des décisions sur comment faire le travail pour atteindre ces objectifs-là et d'avoir un management qui serait uniquement là comme coach, comme facilitateur et qu'on pourra mobiliser uniquement pour trouver les ressources qui permettront de réellement exécuter les décisions. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée qu'on a, en tout cas, d'un pouvoir plutôt capacitant.
Alors, vous, Anthony, vous développez l'organisation du temps de travail qui serait une aliénation, en fait.
Alors, le travail salarié, c'est toujours un échange de temps contre de l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on contractualise avec un employeur? Eh bien, on échange son temps. Alors, c'est un temps que j'appelle amélioré, hein, c'est-à-dire un temps avec des compétences, de l'expérience, etc. Et on négocie ce temps contre une rémunération et on met notre temps à disposition de l'employeur pour réaliser des tâches que l'on n'a pas choisies. Or, le simple fait de réaliser des tâches que nous n'avons pas choisies, qui nous sont imposées, et aussi le fait qu'on ne puisse plus disposer librement de notre temps que l'on a vendu à cet employeur en échange d'une rémunération, eh ben, crée une forme d'aliénation. L'aliénation, c'est le sentiment de ne plus s'appartenir. C'est le sentiment de devoir faire et être une personne que l'on n'est pas vraiment, que l'on ne souhaite pas être. Alors ça, c'est propre à la relation salariale, hein. Et si vous voulez, oui, il y a cette aliénation. Et c'est pour ça que le temps de travail a toujours été au cœur des luttes syndicale tout au long du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que le moins vous travaillez, plus vite vous échappez à cette forme d'aliénation. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que en fait on négocie quoi en général et les gens manifestent pourquoi ? Bah soit pour le temps, soit pour la rémunération, parce que ce sont les deux éléments qui sont vraiment au cœur de la relation de travail.
Alors je voudrais revenir sur contrôle et surveillance. De différencier ou voilà, comment vous voyez dans le livre, bien sûr, il y a ces deux mots, ces deux chapitres, mais on les met en parallèle, en opposition, comment on contrôle sans surveiller, comment on surveille sans... Voilà.
Alors c'est vrai qu'en français, hein, le mot contrôle et le mot surveillance font un peu synonyme. Mais dans le chapitre que notre collègue a écrit, hein, sur le contrôle, Aurélie Leclerc Vandelanoite, elle explique finalement que contrôle en anglais, c'est une exception qui est un peu différente. Donc le contrôle, c'est, comme on a pu le dire un peu avant, l'idée de maîtrise. Donc la maîtrise, ça ne nécessite pas nécessairement en fait, de regarder de très très près ce que font les salariés. Par contre, en revanche, hein, ce qu'on peut souligner, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on a une multiplication de techniques de surveillance. Hein. Notre collègue va peut-être aussi aller jusqu'à dire qu'on est dans la société du contrôle dépeint par Deleuze, notamment avec les technologies algorithmiques qui permettent en tout cas d'avoir un niveau de finesse très petit, en tout cas sur les gestes du travail. Notamment, on peut penser aux travailleurs des plateformes qui, si vous êtes un chauffeur Uber, vous êtes un livreur Deliveroo, vous allez donner en tout cas des traces de votre activité, même sans le vouloir, en temps réel. Donc on sait où vous êtes géolocalisé en permanence. On sait aussi votre taux d'acceptation de course, etc. Donc on va vraiment sur de la surveillance de gestes très fins au travail. Donc, on va vers de la surveillance, mais le contrôle, c'est quand même plutôt de la maîtrise. Donc l'ambition, en tout cas dans le chapitre, c'est de dire, voilà, il faudrait revenir à une acception première du contrôle. Contrôle comme maîtrise de l'activité qui peut supposer de l'autonomie et de la confiance envers les salariés.
Alors un autre mot, changement. Alors on a changement, on a évolué, vous ne voulez pas évoluer, mais pourquoi changer? Voilà. Là aussi ça pose toute question dans l'organisation et dans le monde du travail.
Le changement est une notion qui est au cœur souvent du discours des managers, des entreprises. Ouais. Il faut changer, parfois nombreuses personnes se demandent pourquoi changer. Hein. Surtout que le changement renvoie à une période précise, Hein, ça serait entre deux périodes de stabilité, il y aurait des périodes de changement. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans un changement permanent. Et même certains auteurs nous disent que nous sommes dans une accélération de ce changement. C'est que non seulement nous changeons constamment, mais nous changeons de plus en plus vite, en fait. Et ce changement, je crois, aujourd'hui, crée beaucoup de crispation. De crispation, parce que s'il y a une perte de sens, il y a le sentiment que l'époque nous échappe. Que l'époque nous échappe, que les technologies nous échappent, que le monde nous échappe. Et ça se ressent également dans les enquêtes qu'on peut faire auprès des salariés. Il y a cette idée selon laquelle, de nombreuses personnes nous disent, mais en fait, on n'a plus de maîtrise sur ce qu'on fait, on n'a plus de maîtrise sur notre activité, sur ce. Et y a une déconnexion, du coup, de plus en plus entre la marche du monde et l'expérience vécue par les personnes.
Alors, autre terme, la sobriété, puisque c'est vrai que les préoccupations environnementales sont un peu présentes un peu partout. Donc, si on parle de sobriété, ça amène à repenser toute la production.
Oui, c'est ça, effectivement. C'est la grande idée que notre collègue Franck Algéry développe dans son chapitre sur la production et la consommation, en disant que, il fut un temps où on parlait de durabilité plutôt que de sobriété. Donc la durabilité, c'est d'essayer, en tout cas, de produire plus ou autant, mais avec moins de ressources, et notamment moins de ressources non renouvelables. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu un découplage entre production et consommation. Donc Franck Algéry conclut sur un échec de la durabilité et propose plutôt la sobriété. Donc qu'est-ce que c'est la sobriété ? C'est une forme de renoncement volontaire, en tout cas d'aller vers des pratiques d'éco-conception, où en fait l'innovation ce sera pas de rajouter des couches technologiques, ce sera pas de faire des produits de plus en plus high-tech, mais d'aller au contraire vers du low-tech. Donc par exemple pour l'agriculture, c'est pas forcément d'inventer des nouveaux pesticides, mais plutôt de revenir à des formes de biocontrôle, donc de technologies où on va innover en enlevant, en retirant quelque part quelques couches technologiques.
Oui. Non, mais on peut créer. On voit un nouveau modèle fondé sur la sobriété.
Oui, un nouveau modèle sur la sobriété. En tout cas, il essaie de généraliser en disant qu'il faut appeler à des nouveaux imaginaires sociaux où on va valoriser en fait cette forme de renoncement pour en faire quelque chose qui pourrait devenir, en tout cas, une généralité. Après, la question que vous pouvez peut-être avoir, c'est est-ce que c'est possible réellement ?
Alors, c'est ça. Je me disais, est-ce qu'on est dans l'utopie ou bientôt, bien sûr, est-ce qu'on peut rêver ?
Là, effectivement, la réponse qu'on peut avoir dans l'ouvrage, c'est de dire qu'on a besoin d'utopie. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure cette sobriété, elle peut être généralisée du point de vue d'un pays entier. En tout cas, on peut l'espérer. Mais aussi, on pense que l'utopie, c'est une manière aussi de faire bouger les choses. Parce que si on n'a pas cette utopie d'une société sobre, en fait, ça va aussi décourager l'innovation, la créativité, comme on a pu aussi le développer auparavant.
Oui, Anthony, vous vouliez dire.
Oui, sur la sobriété, c'est pas la privation et la restriction, en fait. C'est un choix. Un choix pour une société plus responsable, une société plus respectueuse de la nature, des individus. Mais c'est avant tout un choix collectif. Donc, si utopie il n'y a pas d'imposition. C'est pas la sobriété ne doit pas être quelque chose qu'on doit imposer, ça doit être un choix démocratique.
Alors en fait, parce qu'on arrive au bout là, le management, le projet, les acteurs, les ressources, les méthodes tendent vers un objectif, et ce livre nous entraîne vers un projet de société.
Oui, on peut dire ça, effectivement. L'idée, c'est d'avoir en fait deux grands objectifs à travers ce livre. D'une part, ce serait l'émancipation des travailleurs, donc retrouver du pouvoir d'agir au travail. Et de l'autre, effectivement, ce serait des contributions, des méthodes pour pouvoir transformer la société vers une société qui serait plus sobre, comme on vient de le dire, aussi plus inclusive, plus juste.
Alors, on revient à ce qu'on disait au début. Dans quel type de société nous voulons vivre et travailler ?
C'est un petit peu ce qu'on a essayé d'explorer à travers cet ouvrage, hein, et dans chaque chapitre, les auteurs ont essayé de proposer des pistes pour repenser les notions clés du monde du travail. Donc à chaque fois, il y a des idées originales qui sont proposées pour un monde du travail que l'on souhaite, que l'on espère un peu meilleur, tout simplement, un monde du travail dans lequel chacun pourra trouver sa place d'abord et s'épanouir ensuite.
Alors, on rappelle le livre « Un autre monde du travail est possible » aux éditions EMS Versus. Mais je rappelle aussi le livre précédent « Pourquoi travailler ?» parce que enfin, c'est la suite, quoi. C'est un peu quand même complémentaire.
C'est sur le travail, bien évidemment, mais, oui. Mais ce n'est pas non plus la suite. Non, c'est vraiment deux livres différents, surtout que « Pourquoi travailler ?» était un essai personnel. Là, « Un autre monde du travail est possible », c'est un travail collectif.
Donc, tout le monde peut s'inspirer de tel ou tel chapitre. Moi, je vous ai proposé par les mots. Et je pense que ça donne vraiment une ouverture sur de rêver à d'autres possibles.
Oui, tout à fait. En fait, on a 26 chapitres qui sont indépendants. On a écrit l'ouvrage sous un format abécédaire, en fait, volontairement, hein, pour que le lecteur puisse consulter les thématiques qui l'intéressent le plus. Donc, ça ne se suit pas nécessairement du début jusqu'à la fin. On peut juste consulter un ou deux chapitres. Chaque chapitre, normalement, pourrait prendre 10 minutes de lecture. Hein, donc, c'est à lire dans le train, dans le tramway. Donc, vraiment, on a pensé à un livre qui serait facile d'accès.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Merci à vous.